fait aboutit, et il y a une contradiction profonde, à notre sens, ce fait aboutit à entériner la division sociale, en quelque sorte, voulue par la bourgeoisie, division consommateur-producteur, division vie du travail, vie hors travail, etc., et à considérer même que les intérêts des travailleurs dans et hors de la production sont antagonistes. Malgré cela, il faut quand même dire que des travailleurs, des syndicalistes, sont conscients des enjeux et sont présents dans les mouvements sociaux. Mais ajoutons que, en ce qui les concerne, l'efficacité immédiate, ou prétendue telle, se substitue dans la plupart des cas à ce qu'on voudrait être la cohérence. En effet, regardons ce qui se passe. Leur présence, souvent active, et ça, en cela c'est positif, dans des organisations sectorielles, spécifiques, ou sous tutelle politique, qui n'est pas forcément celle qui correspond à l'orientation politique de leur propre organisation syndicale, dont les pratiques donc et les objectifs soit s'opposent à tout débouché politique, soit l'envisagent dans une optique contraire à une perspective autogestionnaire. Et là, je voudrais mettre entre parenthèses un certain nombre d'exemples, des exemples d'organisations de consommateurs dont l'idéologie est à prendre, UFC, d'organisations de défense des intérêts de locataires, CGL, CNL, d'organisations de parents d'élèves, Cornec, ou de regroupements divers, amicales diverses, etc. Ça, la présence de travailleurs, et en particulier de travailleurs motivés par l'action syndicale, dans ces groupes sectoriels qui correspondent au caractère que je viens de définir, se pose, à notre sens, en termes d'analyse, devrait se poser, à notre sens, en termes d'une analyse un peu plus cohérente. Le problème ou la question que nous posons à cet égard, face aux organisations syndicales de la production et face à ces travailleurs engagés dans ces perspectives, c'est où est la classe ouvrière hors de la production? Quels moyens s'est donné la classe ouvrière pour permettre aux travailleurs d'intervenir en tant que tels et non plus ou non seulement en tant que membres en tant que membre de la classe des 50 millions de consommateurs français, ou en tant que locataire cloisonné dans leur fonction individuelle d'occupant d'un logement, ou en tant que parents d'élèves soucieux de la promotion individuelle de leurs enfants, ou enfin en tant que père ou mère de famille privilégié, qu'il le veuille ou non, de l'idéologie familialiste. Autrement dit, donc, question fondamentale, quel moyen s'est donné la classe ouvrière pour permettre aux travailleurs d'intervenir autrement que sous ces caractères-là, c'est-à-dire d'intervenir en tant que travailleurs eux-mêmes, organisés. Alors nous, la réponse est simple, c'est la réponse que vous a donnée Michel-Louis tout à l'heure, à savoir la Constitution, au travers de ce qu'on considère, nous, en être aujourd'hui une sorte d'embryon, pour ne pas être prétentieux, c'est la Constitution, la consolidation, l'élaboration, avec d'autres forces qu'on souhaite qui nous rejoignent, la constitution d'un syndicalisme de classe hors production.
Oui, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que Louis Colfutti vient d'aborder, c'est aujourd'hui, si le consommateur a conscience de s'engager dans une lutte pour défendre ses intérêts, ce n'est pas parce qu'il fait partie de la classe des consommateurs. L'analyse qu'on vient de faire précisément démonte le système de la classe des consommateurs, comme bien souvent on voudrait le faire apparaître dans le pays ou dans les pays dits occidentaux, à travers, vous savez, l'idée du consumérisme qui est justement un non-sens par rapport à la lutte des classes. Qui est le ramasse tout de tous les mécontents, ou même de, qui va au-delà, je dirais, du rassemblement des mécontents. C'est parce qu'il fait partie, précisément, ce consommateur, d'une classe, parce qu'il est travailleur dans sa fonction de consommateur, et qu'il est réduit à être un acheteur docile, sans pouvoir, sans information, sans décision, sans responsabilité, des produits qu'il a lui-même, en tant que travailleur, fabriqués, dans des conditions difficiles et pour un salaire, quelquefois sans commune mesure, avec le prix qu'on lui impose de payer quand il l'achète chez son commerçant. C'est parce que la lutte comme consommateur est la lutte des travailleurs exploités dans cette fonction de consommation. Et comme le disait tout à l'heure justement alors Louis Colfutti, on ne peut opposer le même travailleur, je dirais, dans sa fonction de consommateur d'une part et de travailleur d'autre part. Et on pourrait faire la même démonstration au niveau du locataire et aussi au niveau de l'usager, etc. La démonstration reste valable. Or aujourd'hui, pour un petit peu illustrer et étayer tout ce qu'on vient de développer, il faut que on aborde quand même un peu les actions qui ont été menées. Elles ont été menées, je dirais, avec des visées, une stratégie, et puis aussi des fois par un ras-le-bol, tout simplement par une explosion aussi, exactement un modèle un peu similaire au modèle de l'entreprise. Et si on reste sur le terrain de la consommation, il n'empêche aujourd'hui que on se doit de faire une certaine analyse, et c'est ce qui nous a conduit à prévoir une stratégie. Aujourd'hui, l'idéologie productiviste nous a imposé une attitude qui subordonne complètement la consommation aux entreprises de production, et non pas, comme on a coutume de dire, seulement à la production. En effet, la production n'existe pas pour la consommation, mais pour les entreprises. Notre possibilité de consommer est liée au fait de disposer d'un revenu. Ça, c'est important. L'objectif numéro un est donc de distribuer, pour le capitalisme, bien entendu, le maximum de revenus possibles, c'est-à-dire le maximum d'emplois. Dans le même temps, le capitalisme joue aussi sur un volant de chômage déterminé pour maintenir en état de dépendance et museler la classe ouvrière. Il s'agit là d'une contradiction importante du système capitaliste, et cela crée justement des conditions favorables à la conquête du pouvoir par la classe ouvrière. Or, pour qu'il y ait plein emploi, il faut qu'il y ait une forte production. Mais production de quoi? Alors, dans l'économie libérale capitaliste, justement, de n'importe quoi, pourvu que cela se vende pour réaliser un profit maximum. C'est ainsi que le besoin de consommer, besoin fondamental et nécessaire à la vie, se transforme dans la société capitaliste en besoin de revenus. Ce besoin de revenus, pour la masse des travailleurs, est un impératif vital. Et il masque, dans le cadre de l'économie libérale, les caractéristiques qualitatives du besoin de consommer, c'est-à-dire du choix des orientations dans les besoins de consommation. Ces orientations de la consommation, comme les décisions de production de l'entreprise et aussi de la distribution des revenus, sont donc concentrées entre les mains de la classe bourgeoise qui assure ainsi une dictature sur l'ensemble des travailleurs. Il convient aujourd'hui d'être réaliste et de se poser la question de savoir comment envisager les rapports, compte tenu de la réalité de la lutte des classes entre l'entreprise capitaliste, il s'agit là du secteur de la production mais aussi de la distribution, quand on parle de ce secteur-là, alors donc entre l'entreprise capitaliste d'une part et les consommateurs, les travailleurs consommateurs d'autre part. En bref, dans l'économie libérale, quels peuvent être les rapports entre la production et la consommation? La lutte syndicale sur les problèmes de consommation actuellement a besoin de ce qu'on souffle. En effet, nous on le constate du moins à travers les luttes qui sont nées dans notre organisation. Après les opérations un petit peu tous azimuts sur les problèmes de l'étiquetage des prix, la composition des produits ou les dates de péremption, encore les colorants, les additifs en général, etc., bon, nécessaires dans un premier temps, pour une prise de conscience des travailleurs, de leur exploitation comme consommateurs et usagers, il est temps à présent de provoquer de façon plus globale les gros distributeurs en cherchant à imposer des conventions collectives, comme nous le faisons dans d'autres domaines, et tout à l'heure on le reverra au niveau de l'habitat, au niveau du problème logement. Des conventions collectives sont aujourd'hui un enjeu stratégique important. En contraignant les capitalistes de la distribution à respecter un certain nombre de normes définies par la convention collective, ceux-ci se retourneront contre les industriels qui produisent, qui les produisent, pour leur imposer des clauses souhaitées par les travailleurs dans leur fonction de consommateur. De ce fait, nous allons modifier les rapports entre l'entreprise capitaliste en général, il s'agit des rapports de production et distribution réunis quand on parle d'entreprise capitaliste en général, et enfin la classe ouvrière. Et ça, c'est important. Et à cet égard, on peut citer des expériences qui ont été menées, des luttes un petit peu expérimentales dans ce domaine, en particulier à Thionville. À Thionville, il y a une grande surface qui s'appelle Géric, et où nos syndicats, je crois qu'on en a plusieurs sur Thionville, ont entamé une bagarre. C'était pas seulement que les syndicats de Thionville, d'ailleurs c'était Thionville et puis aussi les alentours, puisque vous savez fort bien qu'au niveau des grandes surfaces, les grandes surfaces drainent au-delà du potentiel de la ville elle-même où elle est implantée. Donc les syndicats du secteur de Thionville, c'était Thionville, Fench, Horn, il me semble, le secteur, ont entamé une lutte pour imposer une sorte de convention collective. Et ils ont entamé des négociations avec la grande surface. Négociations qui étaient préalablement... à laquelle était préalablement soumis, je dirais, cette grande surface, au moins les représentants de cette grande surface, je dirais un rapport de force, bien entendu, a déjà des actions sporadiques menées par notre organisation, parce qu'on n'amène pas aujourd'hui un directeur de grande surface ou les représentants des grands distributeurs, des grandes chaînes de distribution, à discuter autour de la table pour le plaisir de la discussion. Ça, c'est un petit peu une vue de l'esprit, en fait, seul le rapport de force, comme dans l'entreprise, les amène à discuter et à négocier. En fait, donc, des actions déjà sporadiques leur avaient constitué une pression assez importante qui a fait que nos camarades de la base ont été amenés un jour à poser le problème donc des conventions collectives et dans cette hypothèse, de discuter et de négocier. Bien sûr, les résultats ne sont pas ceux qu'on serait en droit d'espérer sans les comparations de l'entreprise, mais l'expérience démontre quand même qu'on a pu au moins obtenir dans un premier temps, je dirais, des avantages qui sont, comme je le dis, un peu expérimentales. Ces luttes sont encore un peu expérimentales aujourd'hui, mais le droit syndical en particulier, sur le droit d'information à l'intérieur même de la grande surface, le droit d'expression a été arraché, c'est déjà un premier pas, et le second pas, c'est le respect des lois et décrets qui sont ce qu'ils sont, bien entendu, et on aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais quand on sait qu'aujourd'hui, même les lois et décrets qui existent sont continuellement bafoués, on réussit donc à obtenir le respect de la réglementation en vigueur dans le domaine de la consommation de cette grande surface, un contrôle qui s'exerce par leur présence continue dans le magasin, par les militants qui y circulent, sur l'évolution des prix, et sur aussi les conditions de travail des salariés de cette grande surface, nous paraissent assez intéressants comme expérience. Bien sûr, les camarades aujourd'hui ont fait le constat que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aller au-delà, qu'il fallait contraindre le capitalisme dans des retranchements plus significatifs et plus importants, mais je dis, c'est un exemple qui est assez significatif de la direction dans laquelle le mouvement syndical aujourd'hui, à travers les problèmes de consommation, doit s'orienter. Des luttes sur le terrain de la consommation, il y en a d'autres, elles sont diverses. Le terrain est assez vaste justement pour que les luttes puissent être diverses. Ça passe du circuit court de viande ou même du circuit court sur les fruits et légumes, et même encore du circuit court sur les produits laitiers, comme ça fait réaliser à Pau. Donc c'est qu'il y a eu un affrontement entre l'implantation d'une grande surface avait fait interdire la tenue de marché parce que les tout petits paysans des environs, de la montagne environnante, venaient vendre leurs produits. Or, pour que la grande surface puisse s'implanter à des prix sans concurrence, il fallait que la disparition de ce marché. Or, c'est par le pouvoir politique que la décision a été prise. Bien entendu, c'est là qu'on voit aussi les collusions entre le pouvoir politique et les tenants du capital. Donc il y a eu une suppression de ce marché et une grande surface s'est implantée à la suite de ça. Les camarades du syndicat de Pau ont organisé un circuit court, en particulier sur les produits laitiers, c'est-à-dire tout ce qui était fromage, beurre, lait, œufs, etc. Et ont court-circuité, ont provoqué des réactions extrêmement violentes, d'ailleurs de la part de ces distributeurs. Et on constitue un véritable pôle qui est en même temps un véritable centre de culture, un peu culture populaire, où c'est que non seulement on y venait pour acheter, non pas à des prix plus bas, bien sûr c'est important quand on voit quelle est l'importance aujourd'hui du niveau de vie des travailleurs, et leur pouvoir d'achat est au centre des préoccupations immédiatement après les problèmes de chômage aujourd'hui, on le sait très bien. Mais ce n'est pas seulement que le problème des prix, c'est le contrôle, la constitution du prix, comment est-il fait? C'est aussi tout le problème du circuit de distribution. Et c'est pour battre en brèche précisément les circuits de distribution capitalistes que s'était organisée. La stratégie, en l'occurrence syndicale, de cette lutte, elle visait à justement remettre en question, remettre en cause le circuit de distribution. Et que dire des intermédiaires inutiles, de ceux qui s'engraissent vraiment à travers des circuits dont le capitalisme lui-même n'arrive pas à s'y retrouver, dont il est incapable d'ailleurs d'en assumer le contrôle, et on le voit bien aujourd'hui, Raymond Barre qui essaye de mettre un peu d'ordre, de moraliser, entre guillemets bien entendu, le système capitaliste en mettant un peu d'ordre dans les circuits de distribution, eh bien, n'y arrive pas, il ne peut régler ce problème qui était un petit peu, qui est inhérent au système en fait. Or, il y avait donc ce problème-là aussi, mais également, quand je disais l'aspect culturel, c'était simplement aussi la discussion, l'échange entre la façon de vivre d'une population qui n'était pas une population urbaine, qui venait apporter les produits, ses produits, et une population urbaine qui était confrontée à d'autres problèmes. C'est aussi la façon dont les produits étaient réalisés, étaient produits, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps, en ville, dans son quartier, en achetant, de savoir comment ça a été fabriqué. D'ailleurs, même si on avait le temps, on l'ignorerait complètement, puisque les travailleurs sont dans l'ignorance complète de comment c'est fabriqué, par qui, à quel niveau, le circuit de distribution, on l'ignore, on n'y se retrouve pas, les prix, on n'a pas à en discuter, enfin bref, on est soustrait à tout. Or là, voilà une autre action qui a été menée, qui est intéressante. Bon, c'était celle-ci, ça pourrait être celle dans le Val-de-Marne, sur un circuit court de viande. Je ne sais pas si Louis Colfulic a été présent justement dans cette lutte, puisqu'elle était dans le secteur où il habite, dans son secteur d'habitat, qui a donc été mêlé à cette lutte, peut rapidement expliquer en quoi elle consistait.
Oui, je veux bien, c'est donc un circuit court que nous avons réalisé avec des paysans de Luzy dans le Morvan, qui tendait à donc tout simplement acheter de la viande directement à ses producteurs paysans et à le vendre de la viande de qualité, à le vendre à un prix intéressant aux consommateurs. Pour nous, l'opération consistait à faire la démonstration essentiellement qu'autre chose était possible en matière de circuit de distribution de la viande et de formation des prix que ce qui existe actuellement. Et pour démontrer qu'autre chose était possible, la réalisation de ce circuit court s'appuyait sur le fait de mettre en évidence le caractère spéculatif des mécanismes de distribution qui existent actuellement. Et ça a été facile dans les quartiers, en même temps que nous vendions la viande directement avec la présence des paysans à nos côtés, de montrer directement sur des panneaux la différence de circuit qu'avait subi cette viande de bonne qualité avec celle que nous mangeons régulièrement, que nous achetons dans les boucheries des quartiers, qui est certainement de moins bonne qualité et qui avait suivi des itinéraires parfaitement farfelus et beaucoup plus longs que la viande en question, que la viande du Morvan. Deuxièmement, c'était de démontrer l'absurdité à partir de l'existence des circuits actuels, l'absurdité de l'absence de toute possibilité de relation entre le producteur et le consommateur, de l'absence même de communication qui se traduit par le fait qu'ils ignorent non seulement leur existence, mais leur exploitation respective, leurs conditions de classe respectives, c'est-à-dire toutes les données de leur vie quotidienne, et en particulier les différentes formes d'exploitation qui pèsent sur eux. Que d'autre part, c'était aussi faire la démonstration de l'absurdité, de l'anarchie, de l'établissement et de la formation des prix actuels en matière de viande, et en matière d'application des différentes formes de fiscalité que nous avons, notamment de la fiscalité indirecte. En tout cas, ça a été pour notre région et les travailleurs habitants dans différents coins de banlieue, de la banlieue est que nous habitons, une démonstration parfaitement intéressante et que nous souhaitons reproduire.
Sur le terrain de la consommation, il y a d'autres formes de lutte, évidemment. Comme je le disais, comme je le soulignais précédemment, le terrain est très vaste. Et ce qu'on peut dire aussi comme forme de lutte, c'est que, par exemple, à Chaunis-en-Laine, devant les lois non appliquées, en particulier sur les problèmes d'étiquetage et des dates de péremption des produits dépassés, vous savez, date de péremption, c'est ces produits qui sont pré-emballés dont des dates limites de vente sont prescrites dessus. Et si vous consommez ces produits en dehors de ces dates limites, vous avez des dangers, il y a des dangers pour la santé. Or, une fois que c'est produit, que c'est impacté, que ça n'est pas vendu, le capitalisme essaie quand même de liquider, disons, ses stocks, quoi, parce que ça risque d'être détruit. Et le profit maximum fait qu'il a intérêt à ce que ça soit malgré tout liquidé. Il se fiche pas mal des conditions de santé et des conséquences que ça peut avoir. Or, donc, des lois existent. Et elles sont bafouées par les grandes surfaces. Alors à Chauny, précisément, une action a été menée, à l'origine par le syndicat, bien sûr, de Chauny, mais une cinquantaine de militants sont rentrés dans le magasin, ont entassé tous les produits périmés dans les chariots, et il y en avait, je vous garantis qu'il y en avait même plusieurs chariots, ont attiré l'attention sur eux et ont organisé à l'intérieur du magasin un véritable meeting, pendant qu'aux caisses, d'autres camarades distribuaient des tracts, en expliquant aux gens du quartier et aux gens d'ailleurs qui venaient au-delà du quartier l'action, en quoi ça consistait et en portant justement l'accusation sur qu'est-ce qu'on nous fait manger n'importe quoi, qu'est-ce qu'on contrôle n'importe quoi, on contrôle rien du tout en fait, hein, c'est ça le problème, et en mettant donc l'accent sur ce phénomène que tout nous échappe, à la fois on est simplement considéré comme étant un acheteur potentiel. Hein. Or, cette action, c'est une action, je dirais, de sensibilisation, pour devenir une organisation de masse, il faut toucher donc, bien sûr, la majorité de travailleurs. Et cette action a réuni à peu près, le meeting a réuni à peu près à l'intérieur du magasin 150 à 200 personnes. 150 à 200 personnes qui ont posé des questions. Qu'est-ce que c'est que ce syndicalisme? Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Mais à quoi vous servez? Mais j'ai jamais entendu parler de vous. Bah oui, on n'a pas accès aux médias. Les médias, qu'est-ce que c'est? C'est la presse. Eh bien, la presse, quand on veut faire des communiqués, elle nous censure. Ah bon? Je ne savais pas. Et on poser des problèmes du pouvoir, de la grande surface, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, mais nous les consommateurs, mais qu'est-ce que c'est que le consommateur, etc. Tout un travail de conscientisation et de... Qui a réuni donc en fait, qui a doublé les effectifs du syndicat à la suite de cela, et ça a été extrêmement positif pour remettre en cause le pouvoir et l'amalgame entre le pouvoir politique et le pouvoir capitaliste. Un autre exemple aussi d'action, bon, depuis un certain temps, dans l'organisation, c'est un petit peu l'histoire, je ne vais pas la refaire, mais on était traditionnellement, je dirais, c'est vraiment le mot est pas fort, là, traditionnellement en soutien. Des travailleurs en grève de grandes surfaces, quand ça ne le collait pas, des grèves soit de caissières, soit de personnel divers, de ces grands magasins éclataient. Une illustration importante, c'était la grève des nouvelles galeries à Thionville et à Metz, vous savez, en 1972, où c'est que là, à l'époque, c'était encore les APF, on menait une lutte d'action et de soutien très significative et très importante. Dans cette grève qui a eu une ampleur, une répercussion nationale, vous la connaissez, vous en avez entendu parler, il y a de nombreux livres qui en traitent, mais je crois qu'aujourd'hui, on a passé un second stade, toujours en Moselle, où notre fédération, où nous sommes effectivement solidement implantés, récemment, dans un magasin, dans un hypermarché Radar, les caissières se mettaient en grève pour protester et pour revendiquer sur deux points essentiels, une sur les salaires insuffisants, l'autre sur les conditions de travail, parce que quand elles arrivaient au petit matin, elles les ignoraient totalement si c'était dans l'hypermarché de Mont-de-l'Ange où elles devaient aller travailler, ou si c'était dans le hypermarché de Famec. Vraiment, on les traitait vraiment comme du simple matériel, on les promenait d'un magasin à l'autre. Et puis ensuite, d'autres problèmes, c'était la possibilité d'aller faire pipi quand elles en avaient envie, c'était d'éviter les fouilles à la sortie, bon, c'était des problèmes de dignité aussi qui étaient posés de ces travailleurs. Or, dans ce cas précis, l'organisation, la CSCV donc, de Moselle, ne s'est pas comportée en simple soutien. Et c'est là qu'elle a passé, je pense, un autre stade, dans son action. Elle est passée à un stade actif. Pendant que les travailleurs, les caissières étaient en grève, comme c'est souvent le cas, la maîtrise ou les cadres de la grande surface brisent la grève, eux, en organisant la vente, c'est-à-dire en s'installant aux caisses, en approvisionnant les rayons. Mais comme chacun le sait, quand des gens n'ont pas l'habitude d'effectuer le travail d'autres personnes, ils commettent souvent des erreurs. Et bon, de ce fait, malgré qu'ils commettent des erreurs, les consommateurs continuent toujours de venir s'approvisionner, la vente continue de s'effectuer et la grève risque d'être brisée. Eh bien, la CSCV Moselle a appelé d'une part, bien sûr, au boycott de ce magasin. Elle était d'autre part présente, bien sûr, au piquet de grève, parce qu'il existe un piquet de grève. Mais d'autre part, elle a incité des groupes de militants, des petits commandos, comme on les a appelés, sont rentrés à l'intérieur du magasin, ont entassé tous les produits illicites, en particulier les dates de péremption des produits dépassées, parce que la rotation des produits n'était pas faite régulièrement, du fait que le personnel ne pouvait pas l'effectuer, puisqu'il était en grève. Or, les cadres ne pouvaient pas subvenir au travail habituel. Alors, ils ont entassé tout ça, ils ont appelé la gendarmerie pour y faire des constats, parce que la gendarmerie est habilitée à effectuer ces constats, pour pouvoir engager une autre action, en même temps, une action en justice. La gendarmerie s'est bien déplacée, or on vient d'avoir les rapports de justice à la suite de ça, c'est terminé par un non-lieu. Le procureur, en l'occurrence, a fait valoir pour son non-lieu le fait que ça s'était passé dans une période trouble, c'est-à-dire une grève du grand magasin, et que l'utilisation qui pourrait en être faite par la CSCV d'un jugement quelconque ou d'un tribunal serait tendancieuse et serait au service de certains éléments agitateurs. Et d'autre part aussi, l'action précisément qui était une action sur le terrain, qui a mis en place donc un certain nombre de militants qui sont venus et qui ont discuté avec les vendeuses en grève, ont démontré clairement qu'il ne pouvait pas y avoir divorce entre le travailleur dans ses deux fonctions, comme tout à l'heure, de façon plus théorique, on l'avait abordé. Voilà un deuxième exemple, disons, de lutte qui fait que on dépasse vraiment la lutte de soutien simple pour passer à une lutte active. En même temps que les travailleurs passent à l'action, les travailleurs consommateurs passent à l'action aussi en même temps que les travailleurs producteurs. Un autre exemple sur les problèmes de consommation, c'est les procès qu'on peut entamer en justice, et bien par rapport aux grandes firmes, aux contrats non respectés, aux clauses illusoires, ou il y a aussi une action en justice dont on ne se fait pas d'illusion quand on connaît la justice. Je crois d'ailleurs que les problèmes de justice ont été évoqués dans l'ensemble des cours du Centre populaire de formation socialiste. Bon, nous y reviendrons pas. Mais un autre secteur intéressant donc à aborder au niveau des exemples d'action, c'est le secteur habitat. Et je crois que là, Louis, tu pourrais un petit peu nous présenter, par exemple, la grève de Roubaix.
Oui, là-dessus, moi je crois qu'il est évident que le secteur de l'habitat, du logement, de l'urbanisme est un gros secteur de la Confédération et qu'aujourd'hui nous sommes sans doute l'organisation qui se bat en pointe au niveau de ce secteur de la vie quotidienne. Au sens où les luttes que nous avons engagées depuis un certain nombre d'années déjà se sont multipliées, acceptées et prises en charge également dans leur forme et dans leurs moyens par d'autres organisations. Et ça passe essentiellement, ce type de lutte, par le blocage des charges et la grève des loyers. Pourquoi? Parce que c'est évident que devant l'évolution importante du coût des charges et des loyers, il fallait se mobiliser, faire quelque chose. Notre moyen a été le blocage et la grève. C'était le moyen d'atteindre, à ce niveau-là, la loi du marché, de permettre de mettre un coup, d'arrêter, de porter un coup à l'abus significatif du coût des loyers et des charges et l'obtention immédiate de la part des gestionnaires et des propriétaires, la volonté d'obtention immédiate des coûts qu'ils réclamaient. Pour nous, le blocage et les charges sont un moyen qui nous amène, dans chacun des cas, à des négociations avec l'adversaire et qui doivent aboutir, de notre point de vue, à imposer un autre prix des charges, un autre prix des loyers et, au-delà, à imposer une autre organisation de la cité, du grand ensemble, du type d'habitat dans lequel s'opère ce type de lutte. Et d'aboutir en dernier ressort à la conclusion, à l'élaboration collective, sous notre impulsion et par la lutte, l'imposition de conventions collectives de l'habitat qui réglementeront, qui régenteront,
si vous voulez, et qui seront le moyen de contrôle par la population de l'organisation de la cité, du grand ensemble, etc. Aujourd'hui, ce type de lutte s'est développé, et Michel vous citait tout à l'heure le 26 syndicats qui aujourd'hui ont 270 millions de bloqués, je crois, ce qui constitue un potentiel de négociation important pour les syndicats qui sont dans ce genre de lutte. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce domaine-là, nous avons également un autre type de lutte qui est intéressant au niveau des problèmes de rénovation. Et là, nous avons actuellement deux exemples intéressants, celui de Roubaix et celui de Bordeaux. Celui de Roubaix, j'en prendrai un parce qu'il est plus connu et peut-être plus évident. Bordeaux commence à se développer, il a encore moins d'impact, mais je pense qu'il prendra des proportions importantes si les camarades arrivent à propulser leur lutte dans de bonnes conditions. Celui de Roubaix se caractérise de la façon suivante, c'est que nos camarades de Roubaix, auxquels on a cherché à imposer depuis 12 ans dans les courets de Roubaix un plan d'urbanisme, de rénovation, qu'ils n'ont pas accepté, se sont mobilisés, se sont donnés comme moyen de s'opposer à cette nouvelle forme d'organisation de leur habitat, de leur cité, se sont donnés comme moyen la constitution d'un atelier populaire d'urbanisme qui a servi à deux choses. Premièrement, à être un outil constant, un moyen constant de confrontation, au sens où la population a pu venir là, discuter, imaginer un plan d'organisation de la cité en collaboration avec des professionnels qui faisaient partie de la lutte, architectes, urbanistes, etc. Et deuxièmement, d'être un outil de propulsion et de soutien même de la lutte, au sens où ce local de l'habitat populaire d'urbanisme, on est arrivé, nos camarades sont arrivés à avoir tout un matériel, un dispositif de propulsion, de popularisation de leur lutte au travers des différentes commissions d'information technique, de propagande qu'ils avaient réussi à mettre en place. Aujourd'hui, ils sont arrivés, avec le concours de toute la population, à élaborer un plan qui a été relativement accepté, mais qui s'oppose encore, pour une bonne part, aux pratiques ou à la volonté de pratique ou à la volonté de choix de la municipalité actuelle. Tout le problème est de savoir aujourd'hui où va se situer le rapport de force, comment, de quel côté va pencher la balance, mais je suis persuadé que là se joue un enjeu intéressant et que nos camarades ont fruit. Si on en juge au fruit de leur lutte qui existe déjà depuis 2 ou 3 ans, sera en capacité d'infléchir les choix ou la volonté de choix de la municipalité socialiste pour imposer ceux de la population et des travailleurs qu'ils représentent. Voilà, en ce qui concerne les problèmes de l'habitat, il y a d'autres types de luttes, c'est évident, par rapport à l'opposition à des formes d'exploitation aujourd'hui courantes, comme les saisies, comme les expulsions, qui se multiplient, sur lesquels je ne voudrais pas insister par manque de temps, mais qui sont aujourd'hui des formes de lutte qui se développent et qui caractérisent notre volonté de développement de lutte syndicale sur ce secteur. On va peut-être aborder d'autres types de luttes en matière, par exemple, de santé.
Oui, moi je voudrais simplement dire juste quelques mots toujours par rapport aux luttes sur l'habitat. C'est sans raconter forcément l'histoire d'une lutte qui était celle qui a été menée pendant 7 à 8 mois sur le quartier de la Patrotte à Metz en Moselle, une lutte de grève contre les charges locatives, contre la hausse du coût des charges locatives. C'est simplement sur l'aspect de répression qui a suivi, disons, et qui a été au centre de toute cette lutte. Et c'est tellement évident, souvent à travers les problèmes d'habitat, ou même à travers d'autres luttes, mais plus précisément à travers les luttes sur l'habitat, la répression, elle est un petit peu du même genre et du même type que celle de l'entreprise, mais évidemment avec des moyens qui sont différents, puisque le terrain n'est pas le même. Cette répression, elle va depuis le huissier qui fait la démarche de venir et qui menace, bon, bah, les saisies, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il y a un non-paiement, et même à la limite des menaces d'expulsion, tout à fait illégales d'ailleurs, mais enfin, qui font peur devant, bah, devant simplement un public populaire qui n'est pas habitué à avoir affaire à un huissier et qui s'effraie en entendant parler de justice et de huissier, même si, même effectivement, quelquefois, ce n'est pas l'huissier qui se déplace, ou c'est des injonctions de payer, d'abord feuille bleue, ensuite feuille verte. Des offices d'HLM. Alors là, le problème des municipalités, souvent des municipalités de gauche aussi, on est obligé de le constater, pratiquent ça et n'hésitent pas justement à entrer dans ce jeu et dans ces pratiques. Et ça, justement, une force syndicale sur le cadre de vie se doit de dénoncer ça. Et l'indépendance justement du syndicalisme par rapport au pouvoir politique, et ça c'est tout le problème du rapport syndicat-parti, est à voir précisément pour que le syndicalisme puisse continuer de garder son autonomie toujours face au pouvoir, quel qu'il soit, même y compris par rapport au pouvoir de gauche, qui peut être amené, je dirais, à dévier, comme on a pu le constater à maintes reprises, même y compris à l'heure actuelle, parmi des municipalités qu'on pourrait s'attendre comme étant des alliés. C'est aussi des gens qui sont utilisés dans le quartier pour venir et montrer du doigt soit l'homme ou la femme qui vont effectuer les courses dans le quartier. Et celui-ci ou un tel a des dettes et c'est le, je dirais, la propagation de bruit de quartier, de bruit populaire contre un tel ou contre un tel qui a des dettes partout, qui a accumulé. Et c'est toute la vieille moralité inculquée à la classe ouvrière depuis des siècles qui joue et qui entre en action. C'est tous ces aspects-là, c'est aussi la campagne diffamatoire, la campagne de presse d'habitants du quartier qui sont en désaccord avec la lutte menée sur le quartier, bien sûr, manipulée soit par des gens qui sont implantés dans le quartier mais qui représentent soit indirectement un office d'HLM, soit indirectement eh bien, l'organisme privé et qui fait une campagne de presse en disant: moi j'habite le quartier, moi c'est pas vrai, j'estime que les conditions de vie dans ce quartier sont tout à fait décentes et tout, et même porte l'accent, comme c'était le cas dans la lutte de la Patrotte, sur une campagne de presse diffamatoire de caractère raciste, en disant enlevons la pègre de tout ce quartier et ça ira mieux, foutons dehors les étrangers et puis vous verrez, le quartier s'en portera beaucoup mieux, c'est eux qui foutent la merde ici, etc. Et voilà un petit peu le type de répression qui se joue, sans compter et sans parler des lettres anonymes envoyées. Et voilà les pratiques auxquelles on assiste de façon courante, et sans parler aussi des pressions à l'intérieur de l'entreprise. C'est l'office d'HLM ou c'est encore la société qui avertit l'entreprise pour dire: un monsieur un tel ne paye pas son loyer ou ne paye pas ses charges. Et c'est l'entrepreneur, j'allais dire, c'est-à-dire bon, bah, le représentant de la direction, et qui le convoque et qui lui dit: comment ça se fait, monsieur un tel, là vous ne payez pas votre loyer et vous ne. Et bien souvent, même ça s'accompagne de choses beaucoup plus graves, c'est la mise à la porte du travailleur. Voilà les conséquences que ça a. Or, la répression, elle a bien tout son sens. Et là, je voulais attirer quand même l'attention, au moins sur ce type de répression qui existe pas seulement au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau du cadre de vie et des luttes urbaines. Effectivement, il y a d'autres secteurs de lutte également. Par exemple, au niveau du secteur environnement écologique, quand on lutte contre la pollution, à Dunkerque, contre la dioxyde, ou dans la région parisienne, à Pontaucourbeau, une usine de bitume à chaud à Pontaucourbeau, où les problèmes de pollution atmosphérique étaient graves. Bien sûr, on s'attaque à ces problèmes d'environnement, d'écologie, mais aussi, alors, comme le soulignait tout à l'heure Louis, et là-dessus je vais le laisser développer une action santé intéressante aussi à suivre. Il y a aussi, au-delà des actions santé qu'on aura à voir, les actions sur l'école également.
Oui, je crois qu'on peut dire quelques mots de ces deux terrains de lutte-là. Aujourd'hui, c'est vrai que des luttes se développent de plus en plus à partir des problèmes de santé, du refus du droit à la santé pour les travailleurs, et du refus du droit à la formation pour les travailleurs et pour leurs enfants. En matière de santé, nos luttes s'exercent essentiellement sur des aspects qui correspondent à une recherche des intérêts, à une défense des intérêts immédiats que peuvent avoir les travailleurs sur ce terrain. C'est par exemple la lutte pour la généralisation, pour l'obtention et la généralisation du tiers payant pharmaceutique, c'est-à-dire le droit de ne payer que ce qui correspond au ticket modérateur. C'est la lutte pour d'autres pratiques médicales et de soins passant par une volonté pour nous d'implantation et de gestion de centres de soins. C'est la lutte contre le démantèlement de la sécurité sociale qui se fait souvent dans ce domaine-là avec d'autres organisations ouvrières et du cadre de vie. C'est la lutte contre le développement, l'anarchie de la consommation et de la distribution des produits pharmaceutiques, le gaspillage, le coût et la nocivité. C'est la lutte contre l'acte médical, les pratiques médicales eux-mêmes, contre le coût de la médecine libérale et contre la médecine libérale elle-même. Et dans ce domaine-là, je crois que j'ai un exemple à développer davantage. Si vous voulez, je prendrais par exemple celui des centres de soins qui pour nous est actuellement un des éléments sur lesquels nous souhaitons développer notre type d'action en matière de santé. Aujourd'hui, les soins, pour ne pas aller jusqu'au problème des pratiques médicales parce que c'est un gros morceau, mais les soins se pratiquent de la façon la plus libérale par des paramédicaux, les infirmiers, les infirmières en particulier, dans une recherche de profit immédiat, avec tout ce que ça suppose comme rapidité, comme recherche de rentabilité. À cet égard, nous souhaitons dans les quartiers, nous en faisons l'expérience dans un certain nombre de régions, dans la Loire, dans le Calvados, en Alsace, dans le Haut-Rhin en particulier, des expériences de centres de soins dont nous avons pris contrôle, et éventuellement avec d'autres organisations, sur la base d'un projet qui s'articule sur notre volonté d'être en capacité de gérer un centre, avec souvent, pour nous permettre de le gérer dans de meilleures conditions, une aide d'une municipalité de gauche, l'aide financière d'une municipalité de gauche, qui passe également par projet qui se repose également sur le fait de vouloir pratiquer des soins qui soient en rupture avec ceux des pratiques libérales habituelles. C'est-à-dire que nous souhaitons ne pas avoir des infirmières qui ont pour but d'aller piquer les gens tous les jours, les gens qui en ont besoin, et de les piquer à la chaîne, mais de situer leurs pratiques à la fois dans l'aspect des soins nécessaires à leur guérison, mais aussi ces soins passant par une volonté de prévention qui passe elle-même par la communication, le dialogue avec ces gens qui sont malades et la recherche des causes comme des effets des maladies auxquelles on peut s'affronter. Et en ce sens-là, la relation entre les professionnels et les non-professionnels que constituent à la fois les usagers et les militants de l'organisation, de nos organisations, de nos syndicats, est à cet égard intéressante parce que dans le même temps que les soins se développent, la CCV, là où elle est implantée, par ses militants, pratique des enquêtes qui, au niveau des maladies qui sont rencontrées dans les quartiers, cherchent à étudier les conditions de vie, d'habitat et de travail de ces habitants pour mettre en relation tel ou tel type de maladie avec ces conditions mêmes d'habitat, de travail et de vie. Et partant de là, pour engager des luttes plus globales sur un droit à la santé, passant non seulement par des soins, mais passant par d'autres conditions de vie, d'autres conditions de transport, un autre niveau de vie, d'autres conditions de travail. Je voudrais ajouter à ça qu'il est évident qu'il y a d'autres secteurs de lutte qu'on n'a pas eu le temps de traiter, en particulier celui de l'école, sur lequel on est particulièrement sensible, parce que les luttes que nous engageons sur l'école aujourd'hui ne sont pas des luttes en tant que parents d'élèves, mais en tant que travailleurs se battant contre l'école qui est aujourd'hui une école de classe. J'ajoute à cela, sans rentrer dans le détail sur ce type de lutte, en résumé de tout ce que nous voulons dire, qu'aujourd'hui, la CSCV se veut la forme encore réduite d'un syndicalisme de classe sur le cadre de vie. Elle souhaite être le catalyseur des luttes existantes et des mouvements actuels. Faut-il la conserver ? Faut-il conserver cet outil d'une façon spécifique ou faut-il, sous une forme ou sous une autre, l'intégrer, le coordonner avec des structures de syndicalisme de la production ? C'est toute la question qui reste à traiter.